VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 2 décembre 2016, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Arnold Budson. Pour commencer les titres.
République démocratique du Congo, Joseph Kabila ne quittera pas le pouvoir le 19 décembre, affirme à Washington son conseiller diplomatique.
Pendant ce temps, à Bunia, dans le nord-est de la RDC, arrestation de 6 militants de la Lucha.
En Gambie, on devrait connaître les résultats de la présidentielle d'hier dès les premières heures du jour.
Au Mali, reprise aujourd'hui à Sikasso du procès de l'ex-chef des putschistes Amadou Aya Sanogo et de ses 16 co-accusés.
Un processus de nettoyage ethnique est en cours dans plusieurs régions du Soudan du Sud, ont affirmé hier des experts de l'ONU.
François Hollande, en France, ne briguera pas un second mandat en 2017.
Ici, aux États-Unis, Donald Trump nomme l'ancien général James Mad Dog Mattis à la tête du Pentagone.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
RDC, Barnabé Kikaya Binkarubi, conseiller diplomatique du président Joseph Kabila, a affirmé dans une interview à VOA Afrique, ici à Washington, que le dirigeant congolais ne s'en ira pas à la fin de son mandat le 19 décembre, mais bien après les élections. Barnabé Kikaya Binkarubi confirme aussi que Kabila est favorable à une rencontre avec Étienne Tshisekedi, leader historique de l'opposition. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
En RDC même, 6 membres du mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement, ont été arrêtés à Bunia, dans le nord-est de la RDC. Ils tenaient un point de presse à l'occasion du coup d'envoi de la campagne pour le départ du président Joseph Kabila, campagne qu'ils ont dénommée « Bye Bye Kabila ». Eddie Isango a joint un des membres de la Lucha, Luc Nkulula, dans l'est de la RDC.
Les autorités de la police, enivrées par le pouvoir, se sont introduites dans la salle où se faisait le temps de presse et ils ont arrêté 5 membres de la Lucha et 2 journalistes. Jusque maintenant, nos collègues sont encore en détention et nous attendons qu'ils soient relâchés le plus tôt possible.
Est-ce que vous savez où ils sont? Que les reproche-t-on?
La police n'a pas encore dit clairement de quoi est-ce qu'ils sont reprochés jusque-là. Nous attendons peut-être demain, ils vont avoir des inspirations pour les coller des accusations fallacieuses sous les dos. Je vous rappelle qu'il y en a 3 autres qui sont dans la prison centrale de Goma à Mouzenze pour la même cause. Ils viennent de faire 2 mois en prison. Ils vont nous arrêter et nous allons continuer à exprimer notre vœu pour ce pays, notre vœu pour ce processus électoral, pour la démocratie et le respect des lois du pays. Nous n'arrêterons pas. D'ailleurs, déjà à partir de demain, dans toutes les provinces de la République, nous allons commencer des campagnes menant de porte à porte, de rue en rue, pour demander à la population de pouvoir se révolter contre le maintien de ce régime au pouvoir, alors que la loi ne leur accorde plus un moment de plus.
Luc Kulula de la Lucha.
Au Mali, reprise aujourd'hui à Sikasso du procès de l'ex-chef des putschistes du 22 mars 2012, Amadou Aya Sanogo, et de 16 autres prévenus dans l'affaire des 21 bérets rouges dont les corps avaient été retrouvés dans un charnier près de Kati, ex-QG de Sanogo. Ce dernier a proposé hier de payer tous les avocats dans le cadre d'une défense collective de tous les accusés. Karim Kassim Traoré fait le point.
Les avocats de la défense ont eu plus de 3 heures d'horloge d'échange avant d'aller voir Amadou Aya Sanogo, puis les autres accusés. Il ressort des échanges que Amadou Aya Sanogo se propose de payer tous les avocats dans le cadre d'une défense collective de tous les accusés. Certains avocats ne sont pas d'accord avec cette proposition parce que les accusés n'ont pas le même degré d'implication dans l'assassinat des 21 bérets rouges. Maître Boakar Karamogo Koulibaly, qui est constitué pour la défense de Ibrahim Dairou Dembélé, a dit lors de l'audience qu'il ne reconnaît pas le porte-parole des avocats de la défense en la personne de Maître Mariam Diawara. La partie civile, pour ne pas dire les victimes, a reçu plusieurs émissaires. Certains sont venus leur faire des propositions de paiement de dommages et intérêts pour les victimes. D'autres pensent qu'ils doivent se réjouir de la tenue du procès, qui est en somme une victoire pour eux. Ces parents de victimes aussi connaissent des divergences, car certaines victimes sont représentées par leur maman en lieu et place de leur femme dans l'association qui les représente. En tout cas, à la reprise ce vendredi, les avocats de la défense veulent présenter des nouvelles doléances qui risqueraient d'être balayées par la cour afin que le procès puisse rentrer dans le vif du sujet en donnant la parole aux accusés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, l'aéroport de Gao, principale ville du Nord, est impraticable pour une durée indéterminée. C'est ce qu'a annoncé hier la MINUSMA, mission de l'ONU au Mali, à la suite de l'attentat suicide djihadiste qui a visé cette installation mardi soir et provoqué d'importants dégâts. Par ailleurs, des affrontements entre combattants affiliés à des groupes armés signataires de l'accord de paix ont fait, selon l'AFP, au moins un mort hier au sud de Gao, près de la frontière avec le Niger.
En Gambie, les résultats de la présidentielle d'hier pourraient tomber aux premières heures du jour. Était en lice jeudi le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, Adama Barrow, candidat d'une large coalition d'opposition, et Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir et candidat d'une nouvelle formation, tous âgés de 51 ans.
Sur ce scrutin à fort enjeu, pesait l'interruption soudaine mercredi soir du réseau Internet et des communications téléphoniques internationales, une pratique observée dans d'autres récentes élections africaines, Gabon, Congo-Brazzaville, Tchad, est justifiée par le gouvernement par la volonté d'empêcher la diffusion de résultats non officiels. Selon des analystes et l'opposition, c'est la première fois que le régime qui a survécu à de nombreuses tentatives de coup d'État est sérieusement menacé par un scrutin au terme d'une campagne marquée par l'expression d'un pluralisme inhabituel.
Les Ghanéens, eux, se rendront aux urnes le 7 décembre pour élire leur nouveau président. Ce scrutin à un tour opposera sept candidats, Eric Manirakiza.
La course s'annonce serrée entre deux principaux candidats et ennemis politiques de longue date. Le président sortant John Mahama brigue un second mandat contre Nana Akufo-Addo, leader de l'opposition, qui se lance pour la troisième fois. La dernière présidentielle de 2012 qui les avait opposés s'était terminée devant la justice pour les départager. Malgré le risque de violence dans certaines régions, le Ghana est resté stable et les institutions démocratiques sont respectées. En revanche, les attentes des électeurs sont énormes car la chute des cours des matières premières pèse sur les revenus de l'État. Le pays connaît des scandales de corruption, des coupures d'électricité à répétition et une inflation à deux chiffres qui ont rendu la vie quotidienne difficile pour une grande majorité des Ghanéens.
Un processus de nettoyage ethnique est en cours dans plusieurs régions du Soudan du Sud, ont affirmé hier des experts de l'ONU au terme d'une mission de 10 jours dans ce pays. Le point avec Nanit Talani.
Il y a déjà un processus régulier de nettoyage ethnique en cours dans plusieurs zones du Soudan du Sud qui se traduit notamment par la faim extrême, des viols collectifs et la destruction de villages, a déclaré Yasmine Souka, la chef d'une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Madame Souka affirme avoir entendu des villageois dire qu'ils sont prêts à verser du sang pour reprendre leurs terres. Parmi les signaux d'alerte, elle cite un conflit en cours, des identités ethniques polarisées, des déplacements de populations sur la base de l'ethnie, des indications de violations systématiques et le recrutement de nouveaux combattants, dont des enfants. Pour éviter le pire, les experts onusiens renouvellent leur appel pour un embargo sur les armes, le rajout de 4000 soldats de maintien de la paix et la création d'un tribunal spécial sur les crimes de guerre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a annoncé la nomination du général en retraite James Mattis à la tête du département de la défense. Celui qui est surnommé Mad Dog ou l'enragé est connu pour son franc-parler. Donald Trump a promis d'intensifier la guerre contre les djihadistes du groupe État islamique en Syrie et en Irak, deux théâtres d'opérations que le général Mattis connaît bien. James Mattis, 66 ans, est le premier ex-général à devenir secrétaire à la défense depuis 1950. Donald Trump l'avait déjà crédité de lui avoir fait comprendre que la torture n'était pas efficace.
Toujours, ou plutôt ici à Washington, le Sénat a voté à une écrasante majorité, 99-0, pour une prolongation de 10 ans des sanctions contre l'Iran. une mesure bipartite qui avait déjà été adoptée par la Chambre des représentants et doit à présent être signée par Barack Obama. Ces sanctions, qui devaient s'achever cette fin d'année, ne sont pas liées à l'accord sur le nucléaire iranien adopté mi-2015.
En France, le président François Hollande, qui est très impopulaire, a annoncé hier qu'il renonçait à briguer un second mandat en 2017. Il a expliqué dans une allocution télévisée depuis l'Élysée vouloir éviter une déroute de la gauche face à la droite et l'extrême droite. Un coup de théâtre à 5 mois du scrutin. Disant mesurer l'enjeu de la période qui s'ouvre, il a appelé à un sursaut collectif. François Hollande, 62 ans, a accusé la droite de vouloir remettre en cause le modèle social français et il a mis en garde contre l'extrême droite qui nous appelle au repli à la sortie de l'Europe et du monde. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
En Syrie, des centaines de soldats d'élite syriens sont désormais en place à Alep-Est pour aider le régime à reconquérir les quartiers les plus peuplés de ce bastion rebelle assiégé. Pour sa part, la Russie a proposé des couloirs pour évacuer les civils et acheminer de l'aide. À coups de bombardements aériens et de tirs d'artillerie incessants depuis 15 jours, l'armée a provoqué de terribles destructions dans l'est de la deuxième ville de Syrie, poussé quelques 50 000 habitants à la fuite et pris le contrôle de 40% de ce secteur, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Le Nigeria ne réduira pas sa production de pétrole. L'OPEP a décidé de limiter sa production d'or noir, mais le Nigeria a été exempté en raison des attaques dans le delta du Niger. Des groupes armés font régulièrement exploser des terminaux et des oléoducs dans cette région pétrolifère. Ils réclament une meilleure redistribution des richesses et plus d'autonomie vis-à-vis d'Abuja. Électrification de l'Afrique, l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo demande aux fondations philanthropiques de soutenir son projet. Le fonds de soutien de l'électrification de l'Afrique sera destiné à apporter des subventions à des projets africains d'énergie, principalement renouvelables. Son objectif sera de combler le gap de financement nécessaire aux projets existants pour les rendre rentables, a précisé Jean-Louis Borloo. Et puis, le Burkina Faso veut mener une insurrection contre la pauvreté. Le gouvernement annonce un plan de 23,5 milliards d'euros sur 5 ans. Le plan national de développement économique et social ambitionne de faire reculer la pauvreté de 40% aujourd'hui à moins de 35% d'ici 2020 et de créer 50 000 emplois par an.
À présent, les sports avec Jean-Roger Bion. Sénégal-Mali, ce sera la finale du tournoi de l'UMOA au Togo.
Les Sénégalais se sont qualifiés en battant sèchement 7-0 la Guinée-Bissau. L'autre match du groupe B s'est soldé par un match nul, Burkina 0, Bénin 0. La finale, c'est donc samedi au stade Kégué de Lomé. Les détails avec Élisée Oumpatine.
Comme en 2011 à Dakar, le Mali et le Sénégal vont s'affronter en finale de ce tournoi de l'UMOA qui aura lieu demain samedi à Lomé au stade Kégué. Ces deux sélections ont terminé respectivement en tête de leur groupe dans la poule A. Les Aigles ont fini avec 7 points, 2 victoires et 1 nul, surtout la victoire de la dernière journée qu'ils ont obtenue face à la Côte d'Ivoire 1-0. Même cas de figure pour les Lions de la Teranga qui sont eux aussi sortis avec 7 points et cette belle victoire pour finir un 7-0 devant la Guinée-Bissau. En se retrouvant une fois encore en finale, cette fois à Lomé, Maliens et Sénégalais seront dans un face-à-face qui s'annonce épique. Le Mali aura l'occasion de prendre sa revanche puisque le Sénégal était sorti vainqueur il y a 6 ans à domicile sur la marque de 1-0. Une réalisation de Stéphane Badji. Boycon. Élisée Oumpatine, VOA Afrique.
MLS Toronto met fin aux rêves de Montréal et de Drogba.
Toronto est devenue la première équipe canadienne à se qualifier pour la finale du championnat nord-américain de football en éliminant Montréal, dont la star Didier Drogba a fait ses adieux à la MLS. Ce match était le dernier sous le maillot de Montréal de l'Ivoirien Didier Drogba. Entré à la 73e minute de jeu, l'ancien buteur de Chelsea n'a pas eu l'occasion de se mettre en évidence. Drogba n'a donc pas pu offrir un beau cadeau d'adieu à son équipe depuis juillet 2015.
NBA, championnat de basketball nord-américain, les résultats des matchs d'hier soir.
Charlotte a battu Dallas 97-87. Brooklyn Nets s'incline devant Milwaukee 111-93. Memphis a eu raison d'Orlando 95-94. Cleveland, tenant du titre et équipe de LeBron James, succombe aux Clippers de Los Angeles 113-94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le conseiller diplomatique du président Joseph Kabila est de passage à Washington pour tenter de rassurer les Américains sur les intentions du chef de l'État congolais, alors que l'horizon semble toujours bien sombre dans le ciel politique à Kinshasa. Barnabé Kikaya Bin Karoubi affirme que Kabila sera toujours à la présidence après le 19 décembre, mais qu'il quittera bien le pouvoir quand son successeur sera élu. Une déclaration que ne vont pas forcément aimer les opposants congolais. Nicolas Pineau a rencontré Barnabé Kikaya Bin Karoubi. On l'écoute.
Il y a eu beaucoup de désinformations et de sous-informations. Les gens ne sont pas informés. Les Congolais ont trouvé une solution pour l'après 19 décembre. Le président de la République, qui a déjà accompli ses deux mandats électifs, peut rester en fonction. Donc la fonction de président continue, bien que la légitimité électorale se termine. Mais la fonction de président se poursuit jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président élu à qui le président Kabila va transférer le pouvoir. Voilà la situation. Nous avons convenu ensemble que le poste de Premier ministre, par exemple, irait à l'opposition alors qu'il devait revenir à la majorité présidentielle. Et lorsque le Premier ministre Sami Badibanga a été nommé, moi je crois savoir que la population congolaise unanimement a salué comme un geste finalement qui vient adoucir les tensions, baisser les tensions dans les rues de Kinshasa.
Certains vous accusent déjà de violer la feuille de route puisqu'il n'y a pas de gouvernement.
Ça ne saurait tarder. Il est vrai que c'est un exercice compliqué. C'est un gouvernement d'union nationale, ne l'oubliez pas. Maintenant, il faut à tout prix que ce gouvernement d'union nationale soit mis en place. Le Premier ministre poursuit ses consultations et je crois que d'ici le début de la semaine, nous aurons un nouveau gouvernement.
Joseph Kabila n'a pas dit clairement qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat.
Si vous avez écouté sa dernière adresse à la nation, il a dit clairement que la Constitution sera respectée dans toutes ses dispositions. Et une de ces dispositions, puis-je vous le répéter, est que le président actuel ne peut pas briguer un troisième mandat.
Aujourd'hui, vous dites clairement que le président Kabila n'a pas volonté de modifier la Constitution pour rester au pouvoir.
Ah non, modifier la Constitution, il l'a dit. Mais je vous fais remarquer que dans la région, dans notre région d'Afrique centrale, plusieurs pays ont modifié leur Constitution et que nous pouvions le faire en même temps qu'eux. Comme ça, on n'allait pas nous pointer du doigt. Mais nous ne l'avons pas fait.
Les membres du rassemblement, notamment l'UDPS, par la voix de Jean-Marc Kaboun, a appelé à une rencontre pour régler ces tensions, évidemment post-19 décembre, entre le président Kabila et Étienne Tshisekedi. Quelle est la réponse ?
Il n'est fait que nous rejoindre. Le président Kabila, lorsqu'il a reçu les membres du Conseil de sécurité, j'étais dans la salle. Laissez-moi vous dire que le président a lancé un appel pathétique à M. Étienne Tshisekedi de venir le rencontrer. Il a même dit aux membres du Conseil de sécurité, je vous remets mon numéro de téléphone privé. Allez le donner à M. Tshisekedi. Alors moi, je suis surpris que quelqu'un fasse une conférence de presse dans laquelle il répète la même chose. Le président Kabila n'a jamais fermé sa porte. Il est prêt à recevoir tous les Congolais. Il est là. Il est président de tout le monde.
Aujourd'hui, vous dites qu'il y aura une rencontre Kabila-Tshisekedi.
Je n'ai pas dit cela, parce qu'une rencontre quand même de haut niveau, ça se prépare. Mais je ne pense pas que le président puisse fermer sa porte, mais cette rencontre devra être précédée par une préparation.
Mais en tout cas, il y est favorable.
Absolument.
Que fera Joseph Kabila le 20 décembre à minuit 01 minute ?
Le soleil va se lever à l'est, il va se coucher à l'ouest. Il sera à la présidence de la République, parce que s'il quittait la présidence de la République, parce que la constitution de la République démocratique du Congo lui demande de rester président de la République démocratique du Congo aussi longtemps qu'il n'y a pas un autre président élu. Alors notre message à la communauté internationale, à nos partenaires américains et autres, c'est de nous accompagner vers ces élections-là, que nous, Congolais, nous avons décidé, auront lieu en avril 2018. Venez nous aider et vous verrez que le président respectera. Bien sûr, à ce moment-là, il va respecter la Constitution. S'il y a un nouveau président élu, il quittera le pouvoir.
Barnabé Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique du président Joseph Kabila.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
En France, le président socialiste François Hollande, très impopulaire, a annoncé hier qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat en 2017. C'était lors d'une allocution télévisée solennelle. Pour une analyse, Anastasie Toudiech a joint à Paris le politologue Thomas Guénolé.
François Hollande a eu l'extraordinaire sagesse de voir qu'il n'était pas en situation de remporter l'élection présidentielle et que même il n'était vraisemblablement pas en situation de remporter la primaire du Parti Socialiste pour désigner le candidat de la gauche de gouvernement à l'élection présidentielle. J'insiste sur le fait que c'est une attitude tout à fait rarissime. La plupart des hommes politiques à ce niveau de compétition ne savent pas quand s'arrêter. Et donc c'est tout à fait remarquable de sa part.
Est-ce que c'est de la sagesse ou est-ce que c'est vraiment pour éviter le désastre annoncé vu l'état de sa cote de popularité très basse?
Les deux, mon général. C'est-à-dire qu'il a précisément la sagesse de voir que ça ne passe pas. Les hommes politiques de niveau national vivent tellement dans une bulle et généralement entourés de courtisans. Ils sont physiquement dans une vie quotidienne. C'est un phénomène de tour d'ivoire presque systématique. Que c'est vraiment tout à son honneur de voir que ça ne passe pas et d'en tirer les conséquences et donc de s'épargner ça et d'épargner ça à son propre camp.
Alors dans ces conditions, qui à gauche pour représenter la gauche?
Il y a en fait trois personnes dont en fait il n'y a que deux places et il y a un fauteuil pour deux dans un cas. C'est-à-dire que ce sera Manuel Valls ou Arnaud Montebourg pour la primaire du PS. Manuel Valls étant dans la continuité de l'héritage de François Hollande mais avec une ligne qui lui est particulière, qui est beaucoup plus autoritaire sur les questions de sécurité et sur la relation avec la minorité musulmane. Ils baptisent ça fermeté sur la laïcité, mais en réalité c'est une hostilité envers le fait religieux musulman lui-même. Et il est sur une ligne de politique économique qui est identique à celle de François Hollande. Arnaud Montebourg, lui, est sur une ligne qui est relativement inconnue, on ne sait pas trop ce qu'il pense sur les questions de type minorité musulmane, sécurité, etc. Il a une position connue sur l'antiterrorisme qui est le rétablissement du service militaire. Par ailleurs, sur l'économie, c'est un keynésien et c'est un protectionniste. Donc il est vraiment dans le contre-pied à gauche de la politique préconisée par Manuel Valls. À côté de ça, vous avez quelqu'un qui, lui, est socialiste au sens fort idéologique du terme. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, est déjà parti dans une campagne qui a l'air de bien démarrer. La plupart des sondages le pointent à 15%, et donc il est vraisemblable qu'il ait une dynamique assez intéressante pour lui. À mon avis, si Manuel Valls est le candidat du PS, eh bien, je pense que Jean-Luc Mélenchon lui passera devant. Si jamais c'est Arnaud Montebourg, là, pour le coup, la question deviendra vraiment posée d'une candidature unique du PS et de la France Insoumise, la formation de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, parce que ça n'aurait pas vraiment de sens avec des programmes relativement compatibles que les deux y aillent. Et donc, dans ce cas-là, il y aurait une pression assez forte dans l'opinion publique pour qu'il fasse cause commune.
C'était de Paris le politologue Thomas Guénolé. Lutte contre le sida, le pape François a lancé cette semaine un appel pour adopter un comportement aidant à prévenir une propagation ultérieure du VIH. Mais le souverain pontife n'a pas précisé si cela englobait l'usage de préservatifs. Alors, pour des précisions, Eric Manirakiza a joint au Vatican l'abbé Janvier-Marie Gustave Yameugo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au sein du secrétariat pour la communication.
L'Église s'est toujours opposée aux formes de contraception qui existent en jugeant que les rapports sexuels devraient être toujours ouverts à la vie. Et le pape François n'a eu de cesse de le rappeler en disant que la morale de l'Église se trouve face à une perplexité. Bon, c'est comme si le préservatif était la solution numéro un, ce qui n'est pas le cas. Parce que le préservatif risque d'augmenter le problème. Mais depuis lors, il y a pas mal d'épidémiologistes de par le monde entier qui ont reconnu que le pape avait beaucoup raison de souligner cette affaire-là. Parce que théoriquement, une utilisation du préservatif devrait effectivement aider à réduire la contamination. Mais selon pas mal de chercheurs, il n'y a même pas de chiffre corrélatif au taux d'utilisation du préservatif dans les pays en Afrique par rapport à la baisse du sida. Il y a plutôt ce travail responsable. Et dans pas mal de pays comme en Ouganda, l'Église s'est impliquée à un travail responsable pour proposer aux gens un comportement plus humain. Et ce qui a vraiment fait baisser le taux de séroprévalence dans ces pays-là.
Il y a la mission pastorale de...
Oui, la responsabilité de l'homme par rapport à sa sexualité ou de la femme par rapport à sa sexualité. Et l'Église insiste beaucoup sur cet aspect-là. L'Église ne considère pas le rapport sexuel simplement comme un moment de plaisir. C'est un moment effectivement de don de soi à l'autre. Et c'est dans ce sens que l'Église appelle à la responsabilité. Le principe moral est que on n'a pas besoin de contraceptifs, on n'a pas besoin de préservatifs. Se préserver, alors que c'est un acte de don de soi, un acte d'amour.
Donc, pour vous, la position traditionnelle de l'Église n'a pas changé?
Non, elle n'a pas changé et je ne pense même pas qu'elle changera parce qu'il faut distinguer la position pastorale. Moi, j'ai assisté, personnellement comme prêtre, j'ai assisté et je continue d'assister des personnes séropositives qui sont en traitement. J'ai assisté des personnes séropositives jusqu'à leur fin de vie. Et je peux dire qu'en plus, au niveau du continent africain, où surtout mes confrères journalistes occidentaux, je leur demande vraiment pardon parce qu'ils exagèrent quand ils disent simplement que c'est la cause numéro un de la mort. Je peux dire que l'OMS a les chiffres très clairs. Le paludisme tue encore de nos jours beaucoup plus que le sida en Afrique, dans la plupart des pays. Donc ce n'est pas juste de simplement faire un bombardement médiatique avec cette histoire de préservatif ou simplement proposer aux gens la contraception. Non, il y a un cheminement responsable. L'homme doit vivre avec sagesse et même vivre ses plaisirs et ses tendances avec sagesse.
C'était l'abbé Janvier-Marie Gustave Yameogo au Vatican. Le sculpteur sénégalais de renom, Ousmane Sow, est mort à Dakar à l'âge de 81 ans. Il était connu pour ses sculptures géantes représentant des ethnies africaines. Il a été admis à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Paris en 2012. Son exposition sur les Indiens d'Amérique avait attiré plus de 3 millions de visiteurs en 1999 à Paris. Abdourahman Dia a joint à Dakar Alassane Cissé, journaliste culturel qui a réalisé plusieurs interviews avec Ousmane Sow.
Il a marqué son époque, il a marqué de son empreinte des réalisations de haute facture. C'est un sculpteur d'un rang mondial et il a façonné et immortalisé des ethnies africaines avec ses sculptures monumentales. Des ethnies africaines telles que les Maasai, les Nuba, les Peuls. Ces derniers temps, ses réalisations ont porté sur des figures historiques qui ont marqué sa vie, telles que son père, telles que Mahatma Gandhi, telles que Nelson Mandela, tel que l'écrivain Victor Hugo. Et en 2012 également, l'Académie des Beaux-Arts de Paris l'a accueilli comme membre associé.
Alassane, vous l'avez dit, il était connu pour ses sculptures gigantesques consacrées surtout aux ethnies africaines. Tu penses qu'il a eu la reconnaissance qu'il méritait en Afrique?
Mais il a eu la reconnaissance, quoi, qu'on dise. Et au Sénégal, les autorités lui ont rendu hommage, lui ont donné beaucoup de distinctions. Il était impliqué, surtout avec l'avènement du président Macky Sall, dans les politiques culturelles publiques. Je pense qu'on lui a rendu hommage également au cours de grands rendez-vous culturels africains. Ousmane Sow aussi a façonné des sculpteurs de la trempe de Ndarilo également.
Justement, quel est un peu l'avenir de la sculpture au Sénégal et un peu en Afrique après sa mort?
L'avenir de la sculpture au Sénégal, on vient d'apprendre que le jeune Balando sculpteur a été sélectionné par le comité international de sélection pour les 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu en Côte d'Ivoire. Et au village des arts, il y a des sculpteurs de la trempe de Djibril André Diop. Et actuellement, Bassirou Sarr, sculpteur, va ouvrir un village des arts à Ngaparou. Donc la sculpture, c'est une discipline assez difficile par rapport à la peinture, par rapport aux autres arts classiques, mais la sculpture a de beaux jours au Sénégal et aussi en Afrique, avec les sculpteurs sud-africains, ghanaïens, tels que Kofi, et qui sont en train de faire des merveilles et qui exposent aussi bien à la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, de la Documenta de Kassel en Allemagne et d'autres grands rendez-vous des arts plastiques à travers le monde.
C'était de Dakar, Alassane Cissé, journaliste culturel. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.